7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Charlie Dupiot.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. L'éducation est un droit pour chaque enfant et pourtant dans le monde, plus de la moitié des enfants handicapés ne terminent pas l'école primaire. Certains n'ont même jamais été scolarisés. En France, ce sont 30 000 enfants handicapés qui ne vont pas à l'école. Nous en parlons deux jours avant la journée internationale des personnes handicapées prévue ce dimanche 3 décembre. Alors, comment ces élèves peuvent-ils être accueillis dans des écoles dites ordinaires? Quel intérêt pour eux et pour leurs camarades? Et comment donner à ces enfants les mêmes chances de réussite que les autres. Bonjour Florence Mijon.
Bonjour.
Vous êtes en charge du programme de l'inclusion dans l'éducation au sein de l'UNESCO à Paris. Bonjour Serge Ebersold.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, professeur au CNAM, titulaire de la chaire Accessibilité et conseiller à l'Agence européenne pour l'éducation inclusive. Vous publiez tout juste le livre Éducation inclusive, privilèges ou droits, point d'interrogation, aux presses universitaires de Grenoble. Et bonjour Thierry Zoumara.
Bonjour.
Vous êtes président de l'association Trisomie 21 Paris et vous-même père d'un enfant porteur de trisomie. Nous serons en ligne un peu plus tard dans l'émission avec Lucien Naré, enseignant de braille au Burkina Faso et membre fondateur de l'Association pour le salut des personnes handicapées de la vue au Burkina. Et vous, les voisins, les voisines, si vous êtes en situation de handicap, n'hésitez pas à témoigner dans l'émission pour nous raconter votre parcours scolaire ou bien si vous êtes parent d'un enfant handicapé, racontez-nous ses difficultés, ses réussites aussi. On vous attend au 33 1 84 22 71 71 et vous pouvez nous écrire comme toujours sur les réseaux sociaux. Et je vous lis déjà quelques messages qui nous parviennent sur Facebook. Les voisins, Osana nous écrit depuis Béboto au Tchad. Les handicapés sont marginalisés d'abord par leurs parents qui parfois refusent de les envoyer à l'école. Dans les sociétés africaines, on ne traite pas correctement les handicapés. S'ils vont à l'école, ils sont souvent humiliés par leurs camarades et finiront par abandonner les cours. Pourtant, je vous assure qu'ici dans mon pays, on a des députés, des musiciens et même des écrivains qui sont handicapés. Kevin nous écrit depuis Lubumbashi. Moi, j'ai étudié avec une fille handicapée à l'école secondaire. Elle nous impressionnait, elle était vraiment très intelligente, toujours la première de la classe. Janvier est à N'Djamena au Tchad, je le cite, les élèves en situation de handicap doivent fréquenter pour moi des écoles spécialisées afin de bénéficier d'enseignements typiques. À défaut de ces écoles spécialisées, les enfants handicapés doivent être traités avec bienveillance par les enseignants dans les écoles ordinaires. Et puis je vous lis également le message de Stella. Je suis épouse d'un handicapé que j'ai rencontré en milieu scolaire. Je l'admirais, il était très intelligent et il ne trichait pas. Mais j'aimerais dire ici que l'intégration de la personne handicapée hein, chez nous en Afrique doit commencer au sein des familles.
7 milliards de voisins.
C'est vous qui faites l'émission.
Qu'est-ce qu'on entend, Florence Mijon, par éducation inclusive ?
Alors, l'éducation inclusive est tout d'abord un processus. C'est un processus, c'est pas quelque chose qui est statique, qui est figé, c'est quelque chose qui évolue en permanence et vers lequel on doit tendre. Et l'éducation inclusive, en fait, elle vise à surmonter les obstacles qui font que les enfants n'aient pas le droit à accéder à une éducation qui soit de qualité, à accéder à une éducation, à participer dans le processus et à réussir.
Alors, pour donner à entendre la forme que peut prendre l'éducation inclusive, je vous propose de partir dans l'enceinte du collège Buffon, dans le 15e arrondissement de Paris, où une unité localisée pour l'inclusion scolaire, qu'on appelle ULIS, a été mise en place il y a déjà 18 ans pour les élèves aveugles ou malvoyants. Parmi eux, Théotime, élève en 5e, aveugle. C'est sa première année en enseignement ordinaire et il est très mature, vous allez l'entendre. Il est accompagné par Gabriel Sauvillère, professeur de lettres, enseignant spécialisée et Raphaël Constant les a suivis pendant un TP, un exercice pratique de physique-chimie.
Le TP 5, la solidification et la fusion de l'eau pure, vous allez commencer à lire le document et après vous essayez d'émettre votre hypothèse, ok ?
Gabriel et Théotime, vous êtes installés sur la dernière paillasse au fond de la classe. Comment vous allez réaliser ce TP ?
Ben, je vais décrire à Théotime tout ce qui est visuel dans le matériel qu'on va utiliser et les graphiques que le professeur pourrait inscrire au tableau.
Alors la professeure a distribué des feuilles de TP. Et Théotim, tu as l'équivalent sur un fichier informatique, c'est ça qui est retranscrit grâce à ton ordinateur Braille ?
Oui, c'est qu'on a eu le document en amont, il nous a été remis par le professeur et on l'a adapté. Donc on a modifié ce qui avait besoin d'être modifié pour plus de lisibilité.
Et vous, Gabriel, quand Théotim tape sur son ordinateur, vous voyez à l'écran qui est connecté à ce clavier, vous voyez ce qu'il écrit ?
Oui, je peux voir à la fois sa saisie en braille et la transcription de la saisie braille en caractère typographique classique. Du coup, si je m'aperçois qu'il a des difficultés dans la saisie de symboles, là en physique-chimie par exemple, je peux lui rappeler les symboles en braille.
Dès ma première journée, j'ai bien senti que c'était différent de l'INJA, l'Institut National des Jeunes Aveugles à Paris, mais ça allait être chouette. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que à Buffon, on était libre, alors qu'à l'INJA, c'est comme si on était emprisonné en ce que les professeurs nous faisaient apprendre. Ici, on a l'impression de pouvoir tout faire, de ne plus être retenu, de ne plus être entouré de personnes qui sont un peu pareilles que soi. Je m'habitue à être avec les voyants, et les voyants sont habitués à être avec moi. Et ça, je trouve ça génial qu'on puisse tous évoluer, aveugles, malvoyants et voyants, dans le même environnement.
C'est quoi ton programme scolaire ?
C'est le même, justement. C'est ça qui est génial. Parfois, je peux pas faire des choses, par exemple la technologie, je peux pas la faire parce que c'est vraiment très graphique, mais toute autre chose, je peux la faire comme n'importe quelle personne voyante. J'ai besoin d'avoir les livres en braille, par exemple. Après, j'ai aussi besoin d'un ordinateur avec une plage braille ou toutes sortes de bloc-notes braille qui puissent gérer toutes les fonctionnalités dont j'ai besoin. J'ai aussi besoin d'avoir des adaptations tactiles pour pouvoir tracer en géométrie, construire des graphiques, des schémas et d'avoir parfois une aide spécifique pour m'aider à ne pas me perdre dans la leçon que le prof est en train d'expliquer, par exemple. Cette aide, par exemple, c'est Gabriel de l'ULIS qui vient m'aider en classe pour m'aider à comprendre, à m'organiser dans mes affaires parce que le cartable d'un non-voyant, c'est beaucoup, beaucoup plus lourd que le cartable d'un voyant. Par exemple, le livre de maths que j'ai en 5e, l'écriture des voyants. On a un seul livre, mais en braille, on en a 14.
C'est quoi les difficultés que tu rencontres à l'école ?
C'est de pouvoir bien s'organiser, faire les choses en même temps que les voyants. Ce qui est compliqué, par exemple, pour trouver une page dans un livre, il y a plusieurs pages du livre en braille correspondent à une page du livre des voyants. Comme notre ouïe n'est pas surdéveloppée, mais beaucoup plus ouverte que celle des voyants, il faut que je me concentre à la fois sur le fait qu'il ne faut plus que j'entende le reste de la classe qui travaille, plus sur le fait qu'il faut que je me concentre sur ce que je suis, moi, en train de faire. À la cantine, j'ai toujours besoin de quelqu'un pour m'aider. La cantine, en fait, c'est vraiment grand. Il y a plein de tables partout, de chaises, de sacs, de gens qui avancent avec leurs plateaux dans les mains. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué de se déplacer. Je me débrouille. Un aveugle, il doit très tôt être capable de s'adapter à chaque situation auquel il est confronté et auquel il sera confronté dans sa vie.
Donc le mini-congélateur, il est muni ici d'un petit récipient métallique.
Il est devant toi.
De l'eau comment ?
Alors, vas-y, tu peux toucher sa forme globale.
Je vous montre.
Tu sens ?
Un petit récipient métallique dans lequel on va mettre de l'eau pure. Puisque ça marche un petit peu comme une pompe à chaleur...
Alors, elle ouvre le couvercle là. Tiens, vas-y, soulève-le. Tiens, donne-moi ta main droite. Là, tu verses l'eau et ça, ça doit pouvoir la faire refroidir.
Gabriel, vous êtes les yeux de Théotim. Vous suivez ce que dit la professeure du TP, ce qu'elle montre aux élèves et vous le lui montrez ensuite.
C'est un peu ça. Mais il faut laisser au maximum l'élève manipuler lui-même. Donc c'est lui qui va faire l'expérience. Remplir. Tu m'enlèves cet affreux E.
Théotime, est-ce que tu peux m'expliquer comment vous êtes organisé là pour le TP ?
En fait, il y a Gabriel qui tient le chronomètre et qui dit les secondes. Il y a Stéphane qui regarde le thermomètre et qui donne la température. Et il y a moi qui prends les notes.
56.
Est-ce qu'il est là, le glaçon ? Théotime, donne-moi ta main, là, s'il te plaît.
N'aie pas peur, tu risques rien.
C'est moi.
Ih, c'est froid. Mais j'aime pas toucher.
Mais si.
Pourquoi t'aimes pas toucher les aimants en chimie?
Bah, je sais pas ce qu'est-ce qui peut se passer si je les touche. Est-ce que ça va faire des choses bizarres? Est-ce que ça va être chaud? Est-ce que ça va être froid? Parce qu'en fait, nous, les aveugles, vu qu'on voit pas ce qu'on touche, on sait pas comment ça va être.
Et les gens à l'école, ils prennent le temps de te décrire, de t'expliquer les choses?
Bah, il y a certains professeurs, oui. Il y en a d'autres, non.
Tu l'éteins, le thermomètre, Théotime?
Attention, parce qu'il y a deux petits boutons derrière.
Et est-ce que tu as l'impression, du coup, qu'aujourd'hui, ça fonctionne, l'école inclusive?
Oui, aujourd'hui, ça fonctionne très bien. Ça permet de s'ouvrir au monde, de découvrir le monde. Et pour quelqu'un qui est resté enfermé chez lui, c'est tout nouveau. On apprend beaucoup, beaucoup de choses. Là, ce qui est génial, c'est que j'ai l'impression d'être comme un vrai, vrai voyant. Et je dis ça à tous les parents qui ont des enfants aveugles et tous les aveugles eux-mêmes. Restez pas chez vous. Sortez, faites-vous des amis voyants, aveugles, handicapés moteurs. Faut découvrir, faut comprendre comment ça fonctionne.
Reportage de Raphaël Constant au sein d'un collège parisien avec Théotime, 13 ans, aveugle, et Gabriel Sauvillère, qui coordonne donc cette ULIS, cette unité localisée pour l'inclusion scolaire. Elle accompagne 10 collégiens qui ont des troubles visuels dans l'établissement. Comment vous réagissez à ce reportage, Serge Ebersold?
Ah, mais je crois que ce reportage est absolument impressionnant parce qu'il montre que l'éducation inclusive, ce n'est pas uniquement un processus, ce n'est pas uniquement un droit non plus. C'est un moyen pour l'élève de prendre une distance avec sa condition de handicapé. Hein, quand Théotime dit « je suis un vrai voyant », ça veut bien dire que grâce à la scolarisation, il a la possibilité de se penser autrement qu'handicapé. Et je pense que c'est un élément extrêmement important parce que cela va participer de sa possibilité alors de s'inscrire dans le groupe classe, dans l'établissement scolaire, mais aussi dans sa capacité à être reconnu comme un élève, comme un autre, et un citoyen comme tout un chacun.
Alors en France, l'accueil des élèves handicapés a progressé ces dernières années. Entre 2004 et 2014, le nombre d'enfants scolarisés en milieu ordinaire a quasiment doublé, Serge Ebersold.
Ben, ça montre l'importance et le poids des initiatives législatives qui ont été prises maintenant depuis une vingtaine d'années, plus particulièrement par la loi de 2005, qui a fait de la scolarisation des élèves présentant une déficience un droit et une obligation pour le système scolaire.
C'est-à-dire toutes les écoles doivent être inclusives, en théorie.
Aucune école ne peut refuser de scolariser un élève du fait de sa déficience, sous peine de discriminer la personne. Donc, et je pense que le système scolaire français s'est singulièrement ouvert à la diversité des profils éducatifs, et notamment aux élèves présentant une déficience, même si c'est pas toujours très simple au quotidien pour les familles, pour les élèves et pour les acteurs du système éducatif.
En France aujourd'hui, un élève en situation de handicap sur deux est scolarisé en classe ordinaire. Florence Mijon, où en est-on de l'éducation inclusive à l'international, ailleurs?
Alors, il est très difficile de donner des chiffres. Ça, c'est un des problèmes, peut-être, on reviendra sur cette difficulté d'avoir des données fiables sur handicap, pour plusieurs raisons. Ben, on estime déjà, globalement, il y a 264 millions d'enfants et de jeunes qui ne sont pas à l'école, qui n'ont pas le droit à l'éducation dans le monde. C'est très difficile, on va dire à peu près un tiers de ces enfants et jeunes exclus présentent une déficience et un handicap. C'est à peu près les chiffres. Mais comme je vous disais, c'est extrêmement difficile puisque bon, déjà les familles, ça vient aussi de la part des familles, peuvent cacher, ne pas vouloir dire que leur enfant est handicapé par peur d'être montré du doigt. Un auditeur tout à l'heure disait qu'en Afrique, c'est souvent difficile d'accepter le handicap. Donc les familles préfèrent souvent cacher. C'est aussi un problème d'avoir la définition parce que la définition du handicap n'est pas très clair. C'est pour ça qu'on parle aussi de déficience, comme disaient Serge et Bersold. Il y a des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. C'est vrai qu'on préfère souvent dire des difficultés d'apprentissage. Par exemple, des enfants qui sont confrontés à la dyslexie ne sont pas considérés, ils ne se considèrent pas comme des handicapés. Ils ont des difficultés d'apprentissage. Donc, c'est un problème déjà, un, qui est mondial, qui touche tous les pays. Ce n'est pas un problème de pauvres, de riches, de nord, de sud. Ça touche tous les pays, toutes les couches de la société. Et il faut savoir aussi que le handicap, c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. C'est-à-dire, personne n'est à l'abri d'avoir un accident. On peut se faire renverser demain par une voiture et se trouver en chaise roulante. On peut avoir un problème d'AVC qui conduit à un handicap cérébral. Donc, il y a vraiment un handicap, c'est quelque chose qui doit concerner chacun et chacune dans nos sociétés.
Et plusieurs pays ont été précurseurs sur cette question de l'éducation inclusive, notamment l'Italie.
Tout à fait. L'Italie, la Finlande, l'Écosse. Alors, ces pays ont une tradition inclusive de très longue date. On mentionne souvent la Finlande. Ce qui est important, c'est qu'il faut montrer que ces pays commencent déjà par avoir une législation extrêmement inclusive. C'est très clair. Dans Finlande, par exemple, c'est extrêmement clair. Alors après, tout le problème... Il n'y a pas que ces pays-là. Beaucoup de pays, dans leur législation, mentionnent le droit à chacun, la non-discrimination, comme des principes. Mais après, le problème, c'est comment transcrire ces principes législatifs en politique et en programme. Et c'est là où ça pêche dans beaucoup de pays. Là, la Finlande a réussi. L'Italie, par exemple, aussi. Il y a à peine 2% d'enfants handicapés qui sont dans des écoles spécialisées. Donc, la grande majorité des enfants handicapés sont dans des écoles inclusives. Alors après, il y a des pays qui font des efforts. La difficulté, c'est que souvent, ces pays-là vont agir sur seulement un des axes. C'est-à-dire, par exemple, ils vont revoir la formation des enseignants. Ils vont revoir l'accessibilité des établissements. Mais si on veut vraiment avoir une éducation inclusive, il faut agir sur plein
de paramètres. Une approche globale.
Que ce soit en interne, au niveau de l'école, au niveau du système éducatif, au niveau des communautés, agir avec les familles, agir au niveau des médias. Enfin, c'est une approche intégrée et c'est ça qui rend la chose difficile. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un pays qui est vraiment inclusif à 100%.
Et sur le continent africain, certains pays s'intéressent aussi à cette question.
Tout à fait. De plus en plus, par exemple, l'Afrique du Sud est en train de revoir sa politique d'éducation inclusive. Zanzibar, le Ghana, la Côte d'Ivoire a adopté une nouvelle constitution récemment où elle met vraiment l'accent sur la non-discrimination, sur le handicap. Le Sénégal aussi, il y a eu des choses intéressantes en matière d'enfants qui ont des déficiences visuelles, qui ont mis dans des classes ordinaires. Donc voilà, les choses commencent à bouger.
Les choses évoluent. Voilà. Thierry Zoumara, votre fils est âgé de 16 ans. Il est porteur de trisomie 21 et lui a d'abord été scolarisé dans une école normale, en primaire.
Oui, tout à fait. Bah, il a d'abord eu la chance d'être en crèche, puis d'être en maternelle. Et ensuite, il a intégré une CLIS, donc c'est une classe spécialisée dans une école primaire. Ça s'est bien passé au début, très bien passé. Il avait une enseignante extrêmement engagée, qui était très contente de l'avoir, et puis surtout qui le supportait beaucoup. Et en fait, petit à petit, il y a eu une ouverture à d'autres enfants. On a accepté dans les CLIS des enfants qui n'avaient pas de problème de handicap particulier, c'était des troubles du comportement ou des choses comme ça. Et en fait, petit à petit, ça a marginalisé les enfants qui, eux, étaient en situation de handicap réel. Dont mon fils. Donc du coup, les deux dernières années se sont moins bien passées. Et on a dû le changer d'école, c'est-à-dire qu'on nous conseillait de l'envoyer vers le secteur médico-éducatif. Ce qu'on n'a pas voulu faire dans un premier temps, on a dit bon, on va quand même tenter dans le privé. Donc, il a pu faire une dernière année de primaire dans le privé, mais là, on est tombé sur un enseignant qui a mis la barre tellement haut que ça a été assez compliqué. Finalement, il a été intégré dans un collège adapté qui s'appelle Tournesol dans le 12e,
qui accueille spécialisée.
Voilà, spécialisé, qui accueillait une trentaine d'enfants. Sur trois niveaux. Alors eux, ils raisonnaient en termes de maturité, non pas en termes d'âge. Hein. Donc mon fils a été dans ce qu'on appelle la classe de maturité 1, puis ensuite la classe de maturité 2, qui était vraiment le scolaire. Et en fait, ça a très bien marché. Il sait lire et écrire. Voilà.
On va revenir sur son parcours, notamment dans cette école spécialisée. Thierry Zoumara, Serge Ebersol de Florence Mijon. Vous restez avec nous, on vous retrouve juste après le flash d'info sur RFI. A tout de suite les voisins dans 3 minutes.
Milliards de voisins, on est ensemble.
7 milliards de voisins, bienvenue si vous nous rejoignez pour un sujet éducation, comme chaque vendredi. Alors que l'école ne devrait pas être une chance ou un privilège, un grand nombre d'enfants handicapés n'ont pas accès à l'éducation dans le monde. Alors comment les écoles ordinaires peuvent-elles s'ouvrir aux enfants handicapés en s'adaptant au handicap de chacun? Quelles difficultés et quels aménagements sont possibles? Comment former les enseignants à les accueillir dans leur classe? Et puis aussi, comment sensibiliser les autres élèves pour éviter toute moquerie ou toute discrimination? Il s'agit aussi ici de favoriser bien sûr une meilleure insertion sur le marché du travail de ces adultes en devenir, alors qu'on le sait, l'accès à l'emploi des handicapés est encore très difficile sur notre planète. Avec nous pour en parler, nous sommes toujours en compagnie de Serge Ebersold, sociologue, professeur au CNAM, titulaire de la chaire accessibilité et conseiller à l'Agence européenne pour l'éducation inclusive. Également avec nous Florence Mijon, en charge du programme de l'inclusion dans l'éducation à l'UNESCO, Thierry Zoumara, père d'un enfant porteur de trisomie et puis président de l'association Trisomie 21 Paris. Et nous sommes en ligne tout de suite avec un voisin, Félix, à Dakar. Bonjour Félix.
Bonjour, ce n'est pas Dakar, mais c'est Saint-Louis.
Ah, vous êtes à Saint-Louis, au Sénégal.
Oui.
On vous écoute,
oui,
Félix.
Oui, au Sénégal. Bon, en tout cas, mon parcours, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai commencé à l'école primaire. Je n'ai pas eu la chance de faire l'école maternelle parce que du fait de mes soins de réhabilitation, j'ai dû commencer l'école un peu plus tard, donc à l'école primaire à Yaoundé, à l'école primaire adventiste.
Vous êtes handicapé moteur, Félix?
Oui.
Vous êtes handicapé moteur?
Oui, en fait, je suis handicapé moteur depuis l'âge de 2 ans, suite à une poliomyélite. Bon, donc, l'école primaire adventiste de l'ONCAC m'a servi une école ordinaire avec les autres enfants non handicapés. Ça m'a servi en même temps pour l'instruction, mais en même temps, ça a été la base de mon intégration sociale. Donc, en fait, ça m'a servi aussi pour me faire accepter mon handicap aux autres camarades. Et aussi, ça a été la base pour pouvoir créer ou bien avoir l'expérience sur les relations humaines. Surtout les relations filles-garçons, les relations affectives, les relations sentimentales.
Vous avez rencontré votre épouse dans une école ordinaire?
Bon, en fait, j'ai rencontré mon épouse un peu plus tard, donc à l'école, à l'université. Mais déjà, au secondaire aussi, j'ai appris à connaître les échecs sur le plan sentimental et aussi pas trop de réussite. Mais sinon, ça a forgé quand même à moi l'acceptation. En fait, j'ai appris à me faire accepter des autres, ma différence aux autres camarades. Et donc, pour moi, je pense qu'il est important... c'est vrai, l'école spécialisée est bonne, mais il faut en même temps que les écoles spécialisées, mais qu'on fasse aussi tout pour que les enfants en situation de handicap soient intégrés dans les écoles ordinaires, parce que ils ne vont pas vivre dans une société exclusive, ils vont vivre dans une société ordinaire avec les autres. Il faut donc apprendre à les faire accepter dans les écoles ordinaires. Oui, pour que ils ne se sentent pas après rejetés quand ils au cas où ils font uniquement les écoles spécialisées.
Merci beaucoup Félix pour ce témoignage. Vous avez pu donc aller jusqu'à l'université, devenir cinéaste, enseignant dans le primaire. Florence Mijon, vous voulez réagir?
Oui, je voulais juste réagir sur ce que vient de dire Félix sur les écoles spéciales. Certains pensent que c'est mieux pour les enfants handicapés d'être dans des écoles spécialisées. Bon, comme a dit Félix, dans la mesure du possible, il faut mieux aller dans les écoles ordinaires. Et je voulais juste souligner que souvent, les écoles spécialisées, elles ne sont pas présentes sur tout le territoire. Dans beaucoup de pays, elles sont présentes dans les centres urbains, dans les villes, ce qui fait que ça fait une discrimination en plus pour les enfants handicapés qui viennent de régions pauvres ou de milieux ruraux. Donc c'est pour ça que il faut, dans la mesure du possible, essayer d'avoir des écoles inclusives proches des communautés. C'est-à-dire dans les villages, dans les petites villes, essayer de développer cette approche inclusive au plus près des communautés. Sachant que les écoles spéciales sont, malheureusement, dans la majorité des cas, dans les centres urbains et les villes les plus riches.
Thierry Zoumara.
Oui, alors, c'est vrai que cette expérience-là, elle est vraiment intéressante. Mais en même temps, lorsqu'il s'agit d'enfants qui ont des difficultés, enfin des déficiences intellectuelles, c'est encore plus compliqué. C'est-à-dire que là, on a affaire à des personnes qui ont peut-être un handicap physique ou des problèmes d'accès, etc. Mais ils ont toute leur tête et ils peuvent apprendre. Il y a d'autres enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Et là, le problème, c'est que c'est encore plus difficile. Et quand on parle d'inclusion, ça veut dire qu'il faut aller les chercher. C'est pas eux avec leurs ressources qui vont pouvoir tout d'un coup vaincre tous les obstacles et faire en sorte justement qu'ils soient acceptés. En général, la société ne les accepte pas d'emblée et on leur demande de développer les ressources nécessaires pour eux-mêmes s'insérer, ce qui est, je dirais, quasiment impossible. Mmh. Donc dans ce cas de figure précis, effectivement, il faut un environnement qui soit favorable, un environnement qui justement permette à ces enfants déjà de se sentir en sécurité, de ne pas se fermer, de pouvoir justement s'ouvrir. Mais le problème, c'est que ça commence déjà au sein de la famille. Voilà le problème. Donc si la famille elle-même, elle a des réticences à lâcher l'enfant dans un environnement pour qu'il développe des ressources et qu'il apprenne, c'est déjà le premier obstacle. Le second obstacle, c'est si en plus de ça, vous avez un environnement qui n'est pas accueillant ou qui est supposé l'être, mais qui ne l'est pas, ça envoie des messages qui font qu'à la fin, vous allez avoir des jeunes qui auront un parcours extrêmement haché. Et ça peut expliquer pas mal d'échecs qui se passent justement dans n'importe quelle famille.
Et au sein de votre association, vous avez rencontré des parents qui ont eu des difficultés à scolariser leurs enfants?
Moi, j'ai non seulement au sein de l'association, mais je reçois beaucoup d'appels de parents qui alors qu'ils ont justement parfois un accès à une école.
Une école spécialisée?
Non, une école ordinaire. Eh bien, même en étant inscrit dans une école ordinaire, on se rend compte que les obstacles se multiplient. Parce que tout simplement, ces enfants ont besoin d'une aide. Alors souvent, on parle d'aide à la vie scolaire, donc des gens qui accompagnent. Mais le problème, c'est qu'en France, par exemple, il en manque. Souvent, ce sont des emplois très précaires. Donc du coup, résultat des courses, on n'a pas beaucoup de candidats. Et donc, si un enfant se retrouve sans aide, c'est compliqué. Du coup, il va y avoir aussi des réactions du côté de l'enseignant qui va se dire « Oh là là, je ne sais pas gérer ça ». Vous voyez, donc vous allez avoir plein de problèmes qui vont s'agglutiner parce que justement, rien n'a été prévu.
Qui font que certains parents vont être réfractaires à laisser leurs enfants dans de telles écoles.
Et on va penser qu'effectivement, le milieu spécialisé sera plus adapté et... Patatras, ça marche pas comme ça non plus.
Nous sommes en ligne tout de suite avec Lucien Naré, enseignant de braille au Burkina Faso et membre fondateur de l'Association pour le salut des personnes handicapées de la vue au Burkina. Bonjour.
Bonjour.
Alors, quelle école pour les élèves aveugles et malvoyants au Burkina Faso? Où est-ce qu'on en est sur ce sujet, Lucien Naré?
Au niveau du Burkina Faso, nous avons notre école qui s'appelle École filmée des jeunes aveugles. Bon, il y a aussi la BEPAM qui est là. Bon, c'est une école d'abord spécialisée. Et après cela, maintenant, nous étudions les enfants au niveau du collège en inclusivité.
Vous enseignez en fait le braille à ces enfants-là?
Oui, et d'abord, nous avons formé les professeurs braille au niveau du primaire. Et puis, l'État aussi nous affecte des anciens que nous les formons en braille et qui prennent bien les enfants, qui tiennent bien les enfants. Maintenant, au niveau du collège, c'est là le problème qui se pose parce que les professeurs ne connaissent pas le braille. Donc, c'est là maintenant que nous envoyons nos éléments d'aller chercher les devoirs que nous imprimons en braille pour les enfants. Et après ça, maintenant, et puis faire le décodage aussi. Et le père nous a mis à notre disposition une dame que j'ai initiée en braille qui fait le décodage et la transcription pour permettre à ceux qui sont au collège de bien suivre les cours.
Et Lucien Naré, de nombreuses personnes handicapées visuelles ne peuvent pas encore aller à l'école aujourd'hui au Burkina Faso?
Oui, maintenant ils commencent à comprendre les mentalités changent. Sinon, avant, grand nombre de personnes handicapées de la vue n'ont pas la chance d'aller à l'école. Si bien quand j'ai commencé à l'association pour les services des personnes handicapées de la vue en collaboration avec la mission évangélique Braille en Suisse, j'ai pu initier l'alphabet Braille en Moré, en langue Moré, la langue la plus parlée au Burkina Faso, donc qui a permis que actuellement nous avons des centres Braille, des centres d'apprentissage et de formation en Braille pour les personnes handicapées.
Merci Lucien Naré. Je rappelle que donc, vous enseignez le braille au Burkina Faso, que vous êtes membre fondateur de l'association pour le salut des personnes handicapées de la vue. Serge Ebersold, quel regard vous portez sur la situation au Burkina Faso ?
Je connais relativement mal le Burkina Faso. Par contre, je crois que ce qui est important, me semble-t-il, dans certains pays africains auprès des ou dans lesquels j'ai eu l'occasion de travailler un petit peu, c'est que on ne peut pas penser la question de la scolarisation des enfants présentant une déficience sur le même mode que le nôtre, et qu'il y a un certain nombre d'enjeux et de particularités, me semble-t-il, qui sont importantes à avoir à l'esprit. Un premier enjeu, me semble-t-il, et on parlait des parents à l'instant, les incidences financières que peut avoir la scolarisation dans certains pays d'Afrique peut conduire les parents à devoir choisir
l'enfant ira à l'école.
Qu'il est plus judicieux d'envoyer à l'école par rapport à celui qui présente le plus de risques. C'est une dimension qui est relativement importante à avoir à l'esprit. D'autre part, je pense qu'on ne peut pas méconnaître le fait que pour être discriminé, il faut être discriminable. C'est-à-dire que si les personnes ne bénéficient pas des formes de rééducation, des fauteuils roulants, du matériel leur permettant de prétendre à exercer le métier d'élève, cela complexifie singulièrement les choses. Et troisième élément, enfin, qui me paraît important pour avoir à l'esprit les travaux d'un de mes doctorants qui a travaillé sur le Sénégal, c'est ce lien entre handicap et pauvreté, cette relation dialectique entre handicap et pauvreté. Ça veut dire que les personnes qui me présentent une déficience sont surexposées à la pauvreté, et la pauvreté elle-même est source de problèmes de santé qui peuvent générer des déficiences. Mmh. Et je crois que c'est une dimension qu'il est important d'avoir à l'esprit.
Une corrélation entre ces deux facteurs. 7 milliards de voisins, quelle école pour les élèves en situation de handicap? Les voisins, les voisines, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On se retrouve dans un instant après Navarro de Masego. Everywhere this little girl goes, she pick up another obstacle. She was my heart, I don't know the tribe or the fall. But by default, she don't think of me. I thought she was an Indian. She be slanging things like a simian. All my life I wanted me an Indian. Now she's far away, but I had to know. Listen, I know you see it, girl. This ain't sitting real good in my soul. Everywhere this little girl goes, she pick up another obstacle. She was my heart, I don't know the tribe or the fall. But by default, she don't think of me. I thought she was an Indian. But she be slanging things like a simian. All my life I wanted me an Indian. Ooh, girl, let me in. Et nous sommes en ligne avec une voisine, Fatoumata, au Sénégal, au Lac Rose. Bonjour Fatoumata.
Bonjour.
Vous avez été enseignante pendant près de 37 ans. On vous écoute.
Oui, eh bien, j'ai en fait choisi d'enseigner avec des enfants, on dira particuliers, dont des enfants handicapés, à ma première année d'enseignement.
En France.
Oui, en France, je précise. Oui. En fait, j'ai eu la charge d'une classe de 8 à 9 enfants assez jeunes, de 6 ans à 9 ans, une classe qui était, rattachée à un IMP, un institut médico-pédagogique. Voilà.
Mmh. Et comment ça s'est passé ?
Oh ben c'était super. Moi, c'est l'année qui m'a le plus plu de toute ma carrière, je dirais, en gros. Hein. Donc, j'ai vraiment eu du flair de choisir d'enseigner dans cette classe. Et je précise que je n'avais aucune formation particulière. J'avais 20 ans et j'ai passé mon CAP. À l'époque, je pense que c'est toujours comme ça. J'ai passé mon CAP dans cette classe-là avec un inspecteur, lui, qui était spécialisé. Et ça s'est vraiment bien passé. Et moi, j'avais envie de continuer dans ce style d'enseignement. En fait, non, ça ne s'est pas passé comme ça. Et au cours de ma carrière, j'ai rencontré donc d'autres enfants handicapés, que ce soit une surdité ou que ce soit des trisomiques ou toutes... des handicapés physiques, non, je n'en ai pas eu vraiment, mais surtout des trisomiques.
Vous avez accueilli en fait des enfants handicapés assez... dans des classes ordinaires où vous avez enseigné.
Ordinaire. Hein, sauf cette première année-là. Après, c'était dans des classes ordinaires et en maternelle.
Mmh. Et pour vous, il faut que les enfants handicapés soient inclus dans des classes ordinaires ? Ah, Fatoumata, la ligne a été coupée. Je vous propose de réagir, Florence Mijon. C'est vrai que c'est aussi un des enjeux, c'est de former les enseignants ordinaires à l'accueil des enfants handicapés dans leur classe. Comment faire ?
Oui, tout à fait. Effectivement, c'est un des enjeux principaux. Sachant que c'est comme je disais tout à l'heure, une des variables. Il est vraiment important d'avoir toujours en tête cette approche holistique. Effectivement, donc, globalement, qu'est-ce qu'il y a ? Un, on manque d'enseignants dans le monde. Deux, on manque d'enseignants qualifiés. Et trois, on manque d'enseignants qualifiés qui sachent enseigner la diversité, qui sachent enseigner dans une classe où des élèves ont différentes aptitudes. Et c'est ça un des gros problèmes. Malheureusement, il y a très peu de programmes initiaux de formation qui incluent justement cette optique de comment enseigner une classe diverse. Alors, ce qu'on entend beaucoup, surtout en Afrique, c'est, on va nous dire, mais oui, mais un enseignant, il a déjà 60, 80, 100 enfants dans sa classe. Si en plus, il faut qu'il s'occupe d'un enfant qui entend mal, un enfant qui ne voit pas, un enfant qui a des difficultés mentales, on ne peut pas. Voilà. Donc, tout ça ramène à la formation initiale, à la formation continue, qui est malheureusement très peu présente dans beaucoup de pays, et aussi au fait que l'enseignant ne doit pas être vu comme qu'une personne seule qui est face à une salle de classe. Je dis ça parce que dans l'inclusion, ce qui est extrêmement important aussi, c'est le travail en équipe, qui malheureusement n'est pas assez développé et n'est pas assez poussé dans les programmes de formation. Les enseignants doivent travailler avec leurs pairs, doivent travailler en équipe, doivent aussi utiliser, je parlais tout à l'heure des écoles spéciales, qui peuvent devenir des écoles ressources, des centres de ressources, dans le cas où on veut créer une école inclusive. Donc tout ce travail de partenariat entre enseignants, entre éducateurs spécialisés est très important, et aussi ouvrir aux intervenants hors éducation. C'est important d'avoir des interventions multisectorielles, travailler aussi avec la santé, avec l'éducation, avec tous les pouvoirs publics, avec la communauté. Donc il y a vraiment une approche intégrée, multisectorielle à aussi adopter, et malheureusement elle est très peu présente dans les programmes de formation des enseignants.
Serge Ebersold, la question de la formation continue des enseignants en France est bien sûr un enjeu.
Ah, un enjeu fondamental dans la mesure où les données de l'OCDE montrent que les enseignants français sont parmi ceux qui accèdent bien moins que la moyenne des pays de l'OCDE à la formation continue. Et que si on prend les mêmes données, les chefs d'établissement français sont bien plus nombreux que les autres chefs d'établissement à estimer que la formation à l'éducation inclusive est essentielle à l'amélioration des pratiques pédagogiques. Alors je crois que derrière la formation, il y a trois enjeux qui me paraissent importants. Premier, c'est la distinction entre déficience et handicap. Ça me paraît absolument essentiel, puisque L'éducation inclusive ne peut se concrétiser, et c'est un de ses postulats, qu'à condition que l'on admette que les difficultés de l'élève ne sont pas intrinsèques à sa déficience, mais sont largement liées à la manière dont on va adapter ses pratiques à la particularité de l'élève. Et c'est là que l'éducation, la distinction entre déficience et handicap est extrêmement essentielle. L'autre chose, me semble-t-il, c'est dans la manière dont on va penser l'adaptation. L'adaptation pour l'adaptation n'a pas vraiment de sens, puisqu'on oublie que l'enjeu de l'adaptation, c'est permettre à l'élève d'assumer son métier d'élève. Et les données qui existent montrent que le bien-être à l'école de l'élève augmente de entre 5 et 7% selon que l'enseignant adapte ou pas ses pratiques. Et ça, c'est essentiel, me semble-t-il. Troisième enjeu, me semble-t-il, derrière la formation, c'est que l'enjeu de la formation, c'est pas uniquement la diffusion de connaissances, la transmission de connaissances, c'est également permettre aux enseignants d'accéder à de nouvelles routines. Parce qu'un élève qui déroge aux normes scolaires est un élève qui bouscule les routines. Mmh. Et si les enseignants n'ont pas d'autres routines sur lesquelles s'appuyer pour reconfigurer la relation enseignant, ben, il se sent invalidé. Et donc, si en cela, me semble-t-il que la formation gagnerait à s'intéresser aux ruses que déploient les enseignants au quotidien pour faire que les choses marchent. Peut-être pas de la meilleure manière qui soit, mais elle marche. Parce que c'est ça qui va permettre de penser peut-être autrement la formation.
Nous sommes en ligne avec une voisine, Ninelle à Yaoundé. Bonjour Ninelle.
Bonjour Chérie Dupio.
On vous écoute.
Moi particulièrement, je suis handicapée moteur, je suis paraplégique. J'ai eu un accident en 2010, j'avais 17 ans. Je passais du niveau 1 au niveau 2 en lettres. C'était très compliqué. J'ai dû réfléchir si je devais laisser tomber ou continuer. Mon papa, lui, m'a laissé la décision. Il m'a dit, choisis si tu continues ou pas. Maman, elle voulait que je continue parce qu'elle me disait, tes amis que tu as maintenant, c'est la ressource humaine qui te permettra d'aller plus loin. Bon, moi, je ne savais pas trop quoi faire. Et puis, maman m'a beaucoup encouragée, j'ai continué. Du niveau 1, enfin, du niveau 2, en master 1, je ne partais pas à l'école. J'ai fait beaucoup, j'ai fait des montants de rééducation et mes amis, heureusement, m'apportaient des cours, mais je lisais, j'utilisais Internet et j'allais juste composer. Après, j'ai eu ma licence, j'ai continué avec un master professionnel en traduction et je suis en train de faire un master académique en psycholinguistique. Mmh. Je suis professionnelle aujourd'hui, je suis traductrice. Pour ce qui est de la formation continue, comme vous parliez, de temps en temps, je prends des cours en ligne quand il y a des ateliers, si c'est facile. D'accès, j'y vais, si c'est pas bon, je laisse tomber. Et puis, il y a énormément de personnes qui m'aident. Par exemple, Blogup qui m'aide dans l'apprentissage du blogging, SDL qui m'aide dans les formations en continu de traduction. Voilà, en gros, c'est un peu ça.
Et vous dites qu'il y avait peu d'aménagements dans votre université quand vous y étiez, beaucoup d'escaliers, que c'était compliqué d'accès pour vous, en fait.
Oui, c'était vraiment, vraiment compliqué. Parfois, j'ai fait des demandes pour que on change de salle, on met au rez-de-chaussée. Les salles qui avaient les mêmes contenances, bon, je n'ai pas forcément eu de réponse. Mais heureusement, comme je le dis, la ressource humaine la plus importante, ce sont des amis, la famille. Comme un auditeur a dit tout à l'heure, un auditeur aveugle, mon enseignant, c'était mes yeux. Moi, tout le campus, c'était mes jambes. Je passais les pieds, quelqu'un disait, j'étais dans la montée, je disais oui, je montais, je descendais. C'était un peu ça. Et j'utilisais beaucoup Internet.
Merci beaucoup Ninelle pour ce témoignage. Thierry Zoumara, vous voulez réagir?
Oui, en fait, alors c'est par rapport à cette intervention-là, mais aussi l'intervention de Serge tout à l'heure. Mon petit souci, en fait, c'est que on met en place des systèmes, on met en place des possibilités, on a accès à des ressources ou pas, mais en fait, il n'y a pas de stratégie qui parte de la personne. Et c'est ça qui m'ennuie, en fait, dans ce dont on parle au niveau de l'éducation inclusive. C'est qu'en fait, on n'essaye pas de regarder quelles sont les capacités dont la personne peut bénéficier pour pouvoir avancer. Ce qui veut donc dire que, si on ne donne pas les moyens à la personne de développer ses propres ressources, on peut pas, c'est très compliqué d'y arriver. On va demander à l'enseignant d'être, enfin, en tout cas de porter ça, alors que lui-même n'a pas forcément les ressources pour pouvoir justement aider. Donc la question c'est, comment est-ce qu'on peut faire en sorte pour que des jeunes, quel que soit leur handicap, puissent dire, voilà le système autour de moi, je vais essayer de trouver les éléments dans ces... Donc certains sont capables de le faire, ils vont déplacer des montagnes, etc. Mais la grande majorité ne pourra pas le faire. Donc c'est pour ça qu'il faudrait peut-être réfléchir à comment est-ce qu'on essaye de comprendre... D'abord, la personne dans son parcours, et non pas simplement dire, OK, y a l'école, le problème de l'école et l'apprentissage. Il y a d'abord un parcours de vie, ce qui veut dire qu'à différentes étapes, il y aura des difficultés. Mais si on raisonne d'un point de vue plus parcours, là, c'est un petit peu différent.
Et aujourd'hui, votre fils est en école spécialisée. Qu'est-ce qu'il voudrait faire plus tard?
Alors, lui, il veut travailler dans la restauration, il veut être serveur, mais c'est vrai que... Personne ne lui a mis ça dans la tête. Nous, on a simplement accompagné. Bon, il a fait son expérience. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il sait lire et écrire, il se déplace, il est assez mobile dans le métro. Mais c'est vrai que c'est son approche à lui. Et on a simplement essayé de construire en fait des ressources autour. Et moi, ce dont je me rends compte, c'est que plus je l'ai lâché, parce qu'il a fallu le lâcher un jour pour faire deux stations de métro, ben, en fait, plus lui, il a trouvé des moyens de se repérer. Qui fait qu'il va seul à son IMPRO, il va voir ses thérapeutes tout seul, il part même à la piscine à l'autre bout de Paris tout seul. Mais il y a beaucoup de jeunes, quand on les lâche comme ça, on se rend compte qu'en fait, ils arrivent à trouver des ressources. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que le système résonne en ces termes.
En parlant de ces exemples-là.
En se disant qu'effectivement, l'autonomie, c'est l'autonomie d'apprendre, mais aussi l'autonomie de vivre et de travailler.
De vivre et de travailler dans cette société. On aurait beaucoup de choses à dire d'autres sur l'éducation inclusive. Malheureusement, on arrive à la fin de cette émission. Merci à vous, Thierry Zoumara, Florence Mijon, Serge Ebersol. Merci à toute l'équipe de 7 milliards de voisins, Romain Dubrac, Cécile Lavolo, Quentin Ferral, Baptiste Madinier. Et merci à vous, bien sûr, les voisins et les voisines. Lundi, 7 milliards de voisins, vous retrouverez Emmanuel Bastide pour nous parler des légumes. Vont-ils redevenir à la mode ?